Gaston Courtois, Pierre-Alexandre Bouclet.
Pierre-Alexandre Bouclet, oui, pour vous servir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Nous voilà à nouveau en studio après donc le départ de notre cher Stéphane Courtois et nous accueillons Étienne de Marsac. Merci beaucoup d'être avec nous, Étienne, ce soir.
Bonjour, Pierre-Alexandre.
Et donc vous êtes notre référent finance. Alors, la situation mondiale est un petit peu chamboulée. Est-ce que vous pourriez nous parler, justement, faire un point général peut-être sur l'état de la finance dans le monde, et ensuite on axera sur ce qui se passe avec l'Iran, et s'il nous reste une minute sur les rapports de Donald Trump avec la finance.
Très intéressant, merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref et puis d'être didactique, puisque la finance, ça peut rapidement être compliqué, indigeste, incompréhensible pour tous.
Surtout pour nous.
Alors, on vit une période de transition, une période de rupture. La guerre en Iran favorisant du coup l'accélération de cette transition vers la rupture, jusqu'à aujourd'hui, un monde de la finance essentiellement drivé par l'investissement aux États-Unis dans l'univers de la technologie, qui était jusqu'à présent, ces dernières années, la causalité essentielle du mouvement des prix, des variations, des transferts d'argent dans le monde, ce qu'on appelle donc la tech, avec évidemment l'IA comme point central. Premièrement. Deuxièmement, le prix de l'argent qui jusqu'à présent était dicté par les banques centrales de manière assez opérationnelle et assez volontaire de leur part. Et enfin, l'inflation. Donc, investissement dans la technologie, première cause. Deuxième cause, les banques centrales comme grand orchestre, chef d'orchestre de cette finance mondiale. Troisièmement, l'inflation. Les trois rentrent en résonance aujourd'hui, en particulier parce que les banques centrales, donc parce que les prix de l'énergie, les prix de la tech, le coût de la tech augmente sous l'impact d'investissements massifs ces dernières années.
La tech, pour un auditeur de Radio Courtoisie qui connaît rien, c'est quoi concrètement ?
Alors, la tech, c'est plusieurs choses, vous avez raison. C'est pas l'informatique, c'est l'univers du digital, c'est l'univers des puces qui permettent comment aux puissances de calcul de se matérialiser. C'est l'univers des data centers,
donc les centres de données.
Des centres de données, effectivement, qui eux concentrent quasiment la totalité des investissements dans cet univers de la tech aux États-Unis. C'est l'univers du cloud.
Les nuages où on concentre les informations, les datas et les données.
Rendez-vous compte, c'est à peu près $1 trillion dépensés en investissement sur 2 ans. 600 milliards pour l'année 2026. Ce qui veut dire que les États-Unis dépensent le PIB de la Suède uniquement dans cette partie-là qu'on appelle la tech, sur un an. Donc c'est colossal, c'est gargantuesque. Malheureusement, les prix dans cette sphère de l'IA sont en augmentation du fait des investissements massifs, de la course à la primauté, hein, le gagnant rafle tout. Il n'y a pas de place pour les seconds dans cet univers du fait de cette technologie qui est très segmentante entre celui qui l'obtient, celui qui gagne, celui qui se maintient à un niveau élevé de technologie, et puis celui qui n'arrive pas à tenir le rythme. Et donc cette course effrénée sous-tend une augmentation des investissements et du coût de la tech. Donc premier moteur de la finance mondiale qui est en souffrance, hein, et qui est en tout cas en forte élévation. Le deuxième moteur, c'est, on l'a dit, le prix de l'argent via les banques centrales. Ce deuxième moteur, on voit que la dette, et que le sujet de la dette, on en a parlé la dernière fois, est un sujet qui devient une contrainte. C'était auparavant une opportunité, on empruntait pour générer des profits. La dette, c'est une énorme contrainte, et un stock qui est de l'ordre de 100% des PIB mondiaux, hein, en moyenne, et qui devient une contrainte freinant l'investissement, que ce soit l'investissement de l'État ou l'investissement dans le domaine du privé. Et enfin, le coût de l'énergie, troisième facteur, lui aussi en hausse, exerçant au total ce puissant frein que l'on va percevoir dans les semaines et les mois qui viennent, en particulier en Europe, hein, puisque l'Europe, c'est le grand, je pense, perdant de cette guerre qui se situe en Iran sur le plan économique.
Alors avant peut-être de revenir à l'Iran,
ouais,
en soi, quelles seront les conséquences justement pour les Européens ? C'est-à-dire que quand vous dites nous serons les grands perdants, ça veut dire quoi concrètement dans nos porte-monnaies, dans nos investissements, dans nos petits placements, dans la vie du français qui a deux, trois, un tout petit peu d'argent ou du coût de la vie, oui.
Le premier point, c'est que puisqu'il s'agit d'une inflation qui devient une inflation importée, et non pas d'une inflation qui est créée. Donc, si je reprends, pardon, en arrière d'un cran encore, ce choc sur les prix, qui n'est pas simplement un choc sur les prix de l'énergie, mais on y viendra, un choc également sur les prix de l'alimentation, notamment au Moyen-Orient, mais pas seulement, revient comme un boomerang, va revenir comme un boomerang sur l'Europe en particulier. Premier point. Le deuxième point, c'est face à ça, on est démuni. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que jusqu'à présent, en fait, la stabilité financière était laissée entre les mains des banques centrales. Donc, le grand Deus ex machina capable de résoudre les tensions sur les marchés obligataires en rachetant de la dette, de calmer les tensions sur les coûts de l'argent, d'imprimer de la planche à billets, d'imprimer des billets pendant la période du Covid, fabriquer peut-être de manière artificielle de la relance économique face à un choc qui est lié à une inflation importée, et donc une contrainte sur le prix de l'énergie, le prix du pétrole, le prix du gaz liquéfié, etc. Ce grand Deus ex machina est impuissant. Ça n'est pas parce que le pétrole est à 105 et que vous montez les taux d'intérêt quand vous êtes une banque centrale que vous allez faire baisser la demande de pétrole, ramenant du coup progressivement les prix à un niveau plus bas. Donc le taux d'intérêt pour une banque centrale aujourd'hui n'est plus la variable qui permet de contrôler les prix. Donc ça, c'est un vrai problème pour les mois qui viennent. Plus spécifiquement, vous me parliez de l'Europe. Ben, rappelons que...
Et de ce à quoi les Français doivent s'attendre.
Ouais, rappelons la comparaison avec le choc pétrolier de la période 70-80 s'applique pas pour les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis produisent leur propre pétrole.
Oui.
Produisent leur propre pétrole. Donc, premier producteur de pétrole mondial. C'est un chiffre, c'est factuel.
Plus que la Russie.
C'est lié au gaz de schiste. Absolument.
Oui.
C'est lié au gaz de schiste. Donc, premier producteur mondial. Donc, pour Donald Trump, en effet, si le prix du pétrole augmente, c'est pas tellement son problème, en tout cas, c'est pas les prix de son pétrole à lui.
Ouais. Et c'est même son avantage, puisque ça gêne les Chinois.
Exactement, les Chinois, et puis les Iraniens,
ouais.
Et puis l'ensemble des factions ennemies au Moyen-Orient. En revanche, pour l'Europe, c'est un autre sujet, principalement parce que nous, notre énergie est importée, hein, et qui dit hausse du prix de l'énergie, dit forcément baisse de la croissance. Pourquoi ? Parce que énergie égale croissance. Pour fabriquer de la croissance, il faut d'énergie. Et plus le prix d'énergie augmente, plus vos marges diminuent. Si vos marges diminuent, votre PIB, lui, est amené à se contracter. Donc l'Europe est dans une position, effectivement, qui est délicate. Heureusement, des canaux différents ont été anticipés. Des contrats d'import de gaz liquéfié en provenance des États-Unis ou d'Amérique latine sont un petit peu plus en place qu'ils ne l'étaient avant l'ère Covid. Néanmoins, l'effet boomerang sur l'Europe va être assez matériel.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pardon.
Prier ?
Oui. Non, mais à un niveau microscopique, c'est-à-dire celui du consommateur lambda, et à un niveau plus important, que doit faire un État ? Est-ce qu'il faut réinvestir dans le nucléaire ? Oui, oui.
C'est-à-dire que le prix n'était pas augmenté, que déjà il y avait des files de voitures avec des jerrycans qui remplissaient le pétrole, qui remplissaient l'essence et puis le fuel également.
Alors ça, on ne va pas recommander à nos auditeurs de le faire, puisqu'on nourrit du coup la course, l'angoisse, la course, la panique. Il y a des stocks ou des réserves stratégiques de pétrole qui sont disponibles et qui peuvent être mises sur le marché à tout moment. Et puis, le détroit d'Ormuz n'est pas fermé. On entend souvent, voilà, le détroit est fermé, c'est une catastrophe, etc. Non, le détroit est resserré. Alors, moi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais visiblement, c'est de l'ordre de 70 à 80% des passages, pas simplement en pétrole d'ailleurs, mais qui sont freinés. Mais ça veut quand même dire que le pétrole continue. Alors, on peut avoir à être livré, on peut avoir une baisse du volume, une baisse de vitesse, une baisse du volume dans l'approvisionnement, mais il n'y a pas non plus raison de paniquer. Voilà. Alors, je vois bien que 105 dollars le baril traduit une panique et une angoisse sur la fin potentielle de l'approvisionnement en pétrole. Non, là, on va probablement un peu trop loin. Et n'oublions pas que ce pétrole-là, c'est quand même la source de revenus principale des pays, des monarchies du Moyen-Orient, premièrement. Et deuxièmement, ces monarchies subissent un choc sur l'alimentation qui est très fort. On parle de 80% du pétrole mondial qui passe par Hormuz, mais c'est 75% des denrées alimentaires de tout le Golfe qui passent également par là. Oui. Et donc, plus la guerre continue, plus on risque un choc social dans les pays du... Alors, le Maghreb, le pétrole passe plutôt par... l'alimentation passe plutôt par le détroit de Suez. Donc, c'est un petit peu moins un sujet Maghreb, mais le sujet Middle East... Le sujet de l'alimentation va devenir un sujet Middle East évident. On voit déjà des tensions, des pénuries alimentaires, etc. Et je ne pense pas que le Moyen-Orient ait là suffisamment de capacité pour tenir une révolte sociale du fait de la faim qui pourrait se présenter à tout moment. Voilà. Donc, cette faim potentielle agit comme un profond stimuli pour que cette guerre s'arrête finalement assez vite. Et même si on n'en voit pas encore complètement l'issue tout de suite.
Pour l'instant, oui, on ne voit pas. Ce sera
on n'en voit pas l'issue, sujet. Mais il y a des signaux faibles quand même. Il y a des signaux faibles. On entend le fait que Donald Trump discute de sortie potentielle, discute de comment il voit la fin potentielle. On parle beaucoup de l'après-guerre.
Enfin, il fait ça aussi beaucoup avec l'Ukraine.
Oui, ça fait quand même ça n'a pas très bien marché, je te concède. Ça n'a pas très bien marché non plus, effectivement. Mais là, il y a des raisons pour lesquelles, lesquelles cette guerre ne peut pas durer éternellement. Ensuite, on voit quand même la diminution de l'intensité de la réponse iranienne. On est, en baisse de 70% dans la cadence de tirs de missiles, etc. Donc, il y a quand même des signaux faible, qui démontre que la fin est peut-être plutôt proche que lointaine.
Que lointaine, d'accord. Ouais. Alors, nous, encore une fois, nous concernant, et ça peut être... Ça peut être pour un prochain rendez-vous, d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il faudra faire, nous, pour nous mettre à l'abri de ce genre de fluctuations, de crises? Est-ce que le nucléaire, justement... Oui.
Ah, mais c'est sûr.
Je suis content, nul.
Non, mais bien sûr. Il faut... Alors, donc, le nucléaire, c'est la réponse. Le nucléaire, pas forcément le nucléaire français, mais un nucléaire étendu à l'ensemble des pays européens, de sorte que la France arrête de partager à vil prix son nucléaire à elle et qu'elle se le réserve en partie. C'est pas normal que les investissements français soient étendus ou qu'on en fasse profiter nos voisins européens sans en tirer un quelconque bénéfice. Donc, les coûts doivent être partagés nos partenaires européens doivent s'engager résolument dans une autre source d'énergie le pur énergie fossile.
Bon, écoutez, merci beaucoup Étienne de Marsac. Le rendez-vous a été bref, mais je vous propose de revenir peut-être une prochaine fois ou peut-être même un jour d'envisager une émission, une capsule à part entière là-dessus, mais peut-être justement sur ce genre de solutions, c'est-à-dire comme le nucléaire. Et comment mettre nos économies à l'abri de ce genre de...
Alors, je ne suis pas expert en nucléaire, mais...
Non, mais en tout cas, sur le plan économique, voilà. Merci encore, et à très bientôt, Étienne.
Restons courtois. Pierre-Alexandre Bouclet.
Et non, voilà, dans le studio de Radio Courtoisie avec Arthur de Vatrigan qui nous raconte ses mésaventures en matière de fioul, parce qu'il n'a plus de quoi se chauffer, dans sa maison de vacances.
Et, oui.
Et c'est donc à cause
de l'Iran.
De l'Iran,
bah voilà. Oui.
Alors, c'est peut-être aussi un peu
non, à cause des Non, c'est pas à cause de l'Iran, c'est à cause des Français et de l'État qui, voilà, il y en a qui augmentent très vite alors que ça n'avait pas vraiment commencé. L'État surtout qui n'a pas baissé les taxes, donc au final on morfle.
Voilà. Donc,
mais l'État est censé libérer les 4 mois de stock stratégique dont parlait tout à l'heure Étienne.
Étienne de Marsac, oui. Bon, espérons. En tout cas, pour l'instant, les bombardements se libèrent également, ils se poursuivent sur l'Iran, sans que la coalition américano-israélienne ne semble absolument bien prévoir la suite des événements. On en parlait donc à l'instant avec Étienne de Marsac, qui nous dit que ça ne peut pas durer très longtemps, mais voilà, la question c'est quand est-ce que ça va finir et comment? Est-ce qu'il faudra déployer des troupes au sol? Quelles seront ces troupes? Est-ce que ce seront des Américains? Est-ce que ce sera des Israéliens? Est-ce que ce sera plutôt des Kurdes ou des minorités ethniques, donc des milices kurdes qu'on va armer, ou des minorités ethniques ou religieuses de l'Iran? Est-ce que on va laisser les habitants simplement affronter à main nue les milices du gouvernement, parce que c'est aussi un peu ça que Donald Trump les a appelés. Et d'autre part, en face, donc, petit motif peut-être d'espoir, si on considère que le plus important, c'est que les violences s'arrêtent le plus vite possible, à Téhéran, la mort du guide suprême, donc l'ayatollah, pardon, Khamenei, a apparemment fracturé un petit peu quand même la direction du régime, puisqu'on a vu le président, donc, qui s'appelle Masoud Pezeshkian, s'excuser récemment, enfin samedi d'ailleurs, hein, auprès des pays du Golfe, qui avaient été ciblés par des missiles iraniens, en assurant que c'était, pas que c'était pour rire, mais qu'en gros ça n'arriverait plus, et qu'il était vraiment désolé, il a présenté des excuses, et que ça n'arriverait plus, sauf si des frappes étaient tirées depuis ces pays. Mais, quelques heures après, il a été incité à reprendre son communiqué sans les excuses, et il l'a fait, c'est quand même impressionnant. Un chef d'État hein, qui le fait.
Oui, mais un chef d'État d'Iran.
Oui.
Chef d'État en Iran, en dessous des gardiens de la Révolution, en dessous du guide suprême.
Et il l'a fait sous la pression des gardiens de la Révolution et des autorités religieuses qui, elles, assurent que les frappes vont continuer. Et de fait, elles continuent.
Bah oui.
Alors, voilà, en France, ça c'est Stéphane Courtois qui nous le disait, les opposants manifestent en France, place des Invalides ou ailleurs, ils n'ont pas l'air extrêmement fédérés non plus. Et donc, quand certains remercient les États-Unis et Israël, d'autres parlent de crimes. On a vu que le conflit se généralise, puisque donc, évidemment, l'Iran frappe le Koweït, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Bahreïn. La Jordanie, Bahreïn, et de leur côté. Et donc, c'est aussi Israël maintenant qui tape sur le Liban. Tout le monde a l'air de considérer que c'est moins grave. Personnellement, ça n'est pas tout à fait
et
bon.
Il semblerait qu'un curé soit fait tuer aujourd'hui.
Oui.
Absolument.
Mais c'est un tirami. Donc, c'est
sur une maison, mais il ne savait pas pourquoi il tirait.
Mais alors ça, c'est quand même extrêmement grave. Et alors moi, j'ai une petite pensée quand même pour ces pauvres Libanais où j'ai passé parfois du temps ces 10 dernières années. Ça fait des années quoi, que ces pauvres gens sont les victimes de conflits qui ne les regardent pas du tout entre justement les chiites et les Israéliens. Et ils en prennent plein la gueule pour pas un rond, pardon, mais c'est assez hallucinant. Et j'ai l'impression, sincèrement, que tout le monde s'en fiche. Et je suis vraiment poli. Voilà, alors je voulais vous demander vos réactions. Arthur de Vatrigan pour l'incorrect.
Bah, sur l'Iran, c'est compliqué parce que vous avez deux pays donc, qui attaquent. Un Israël, un l'Amérique. Israël, on connaît les raisons, c'est des raisons existentielles. Ils sont menacés, ils ripostent. Et puis le 7 octobre, je pense qu'on a sous-estimé et le traumatisme et l'orgueil touché et le tragique fait qu'ils ont décidé cette fois-ci de plus rien laisser de vivant comme ennemi en face d'eux. Donc ils chargent depuis un an et puis ils vont, ils mettent les moyens. Les États-Unis, les objectifs sont pas très clairs parce que Rubio qui a dit une première fois le secrétaire d'État, on y allait parce que Israël y allait. Trump qui dit
ça c'est de la raison d'État.
C'est pas une blague, il dit ça et puis après il se fait engueuler parce que finalement il dit non peut-être pas. Ensuite Trump qui explique au départ c'est l'arme nucléaire en juin 2025 après les bombardements, il avait dit c'est réglé, il y en a plus. Il dit c'est l'arme nucléaire. Ensuite il dit on va renverser un régime, mais on va attendre que la population soulève. Ensuite, on lance des bombes, et après, soulevez-vous. et vous décidez. Après, il dit je me transforme en chasseur de tête, on a fait une liste de personnes et je vais voir qui va le remplacer. Donc finalement, la population qui se soulève, il s'en fout un peu.
Avec
et puis
Donald
au final,
Trump,
il explique.
Qui vous dit qu'il aurait bien trouvé des gens qui pour remplacer, mais qu'ils étaient morts.
Et les autres sont nuls.
Pardon de rire.
Et les autres sont nuls. Voilà. Ensuite, vous avez. Et après, il dit comme cinquième raison, il dit finalement, ils avaient une arme nucléaire, ils allaient nous tirer dessus. Donc du côté américain, l'objectif, il n'est pas clair. Du côté israélien, il est très clair. Du côté israélien, ils ont le temps et les moyens. Du côté américain, ils n'ont pas les moyens. Quoi, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas le temps. Parce que vous l'avez dit, c'est
les
des bombardements.
Mi-parcours arrive.
Il y a les midterms qui arrivent. La majorité des Américains sont contre l'intervention et une majorité d'Américains du camp Trumpiste sont contre cette intervention. Et là, on est uniquement au niveau du bombardement. Or, pour renverser un régime, si vous avez tapissé la ville, le pays de bombes, il n'y a plus de gouvernement parce qu'il n'y a plus d'humains. Donc, pour renverser un gouvernement, il faut faire du terrestre. Parce qu'on a vu que l'architecture iranienne, c'est pas l'Irak, c'est pas le Koweït, c'est pas la Libye, c'est pas Saddam Hussein, c'est pas Assad. C'est-à-dire, c'est fait d'une telle manière que dès qu'il y en a un qui tombe, il y a le plan B qui arrive, le plan C qui se prépare et le plan D qui est déjà là en attente. Et vous avez la structure avec le grid suprême, la gardienne de la révolution, le président, les ministres. Bref, voilà, c'est quand même une structure, une architecture depuis 40 ans est quand même assez bien foutue et était assez bien pensée qu'on n'élimine pas en deux secondes. Et donc, si vous regardez, Israël va aller jusqu'au bout, mais les Américains ne peuvent pas aller jusqu'au bout, en tout cas, Trump ne peut pas aller jusqu'au bout, parce qu'il est contre sa base, contre le pays, que le Congrès va s'y opposer. Au bout d'un moment, c'est compliqué de faire tout contre... Voilà. Donc, on va se retrouver, à mon avis, si je ferme Madame Irma, dans quelques semaines, Trump va dire victoire,
oui, comme
il a dit en juin 2025.
Il vient de le dire, hein. 15 sur 10, l'opération.
Ah. Il va dire victoire, il va se barrer, et puis le régime n'aura pas été renversé. Et donc, on repart, rebelote.
Ah mais ça, c'est presque impossible. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il a dit en juin 2025 qu'il avait flingué toutes les installations nucléaires.
Oui.
Il l'a dit.
Mais
c'était pas vrai.
Ça veut dire laisser exister un régime qui va se reconstruire tranquillement s'il n'est pas extirpé. Or, c'est quand même un régime absolument maléfique, il faut quand même être honnête.
Bien sûr. Mais si ce régime tombe, je pense que personne va se pleurer.
Normalement, j'espère. Bon. Mais s'il ne meurt pas...
Jean-Luc Mélenchon, avec un peu de chance.
Évidemment.
Mais s'il ne meurt pas, ce régime, c'est quand même un camouflet infligé à la puissance américaine qui n'aura pas été capable de le détruire et qui va se reconstruire.
Mais il va dire que le régime va mourir, est mort, mais en fait, ça va être les gardiens qui vont garder. Peut-être le fils, il n'est pas tué d'ici là. Et
il va le transformer en victoire. Les Américains ont dépensé des dizaines de milliards pour faire en sorte que les talibans soient à nouveau au pouvoir en Afghanistan.
C'est pas faux.
Et les Américains ont l'air de considérer que ce n'est plus leur problème. Et on continue à expliquer que les Américains, dans certaines officines, sont des gens brillants et des tacticiens hors pair et des stratèges d'élite. Il y a peut-être une chose avec laquelle je ne serais pas d'accord dans tout ce qu'a dit Arthur de Vatrigan.
Ouais, débattons.
C'est quand il explique que les Américains et les Israéliens ont les moyens de faire la guerre. Alors, c'est un sujet qu'on avait abordé la semaine dernière à l'antenne de Radio Courtoisie, dans la matinale. Les Américains ont des armes qui coûtent cher et en fait, ils n'ont pas tant de stock que ça. Ils ont déjà beaucoup donné, donc il apparaîtrait, selon certains des spécialistes qu'on peut écouter, que ce déluge de bombes qui coûte très cher, qui s'abat sur l'Iran, risque à un moment donné de mettre à mal les arsenaux américains qui n'ont pas forcément envie de tout dépenser en soutien à Israël et à la politique de frappe préventive d'Israël. Parce qu'effectivement, Marco Rubio a expliqué... On savait que si les Israéliens attaquaient l'Iran sans doute se vengerait sur les bases américaines. Donc, pour éviter que les Iraniens ne se vengent sur les bases américaines, on a décidé d'attaquer avec les Israéliens. Donc, un raisonnement un peu circulaire, à mon avis.
La défense préventive.
Voilà, c'est ça, comme dirait la jeune garde en France, c'est l'autodéfense préventive. On lui casse la gueule parce qu'il aurait pu nous la casser.
Bon, d'accord. Guerre juste préventive,
il n'est pas certain que les Américains et les Israéliens ont les moyens, en fait, de ce déluge de bombes. D'autant qu'ils n'ont pas les moyens.
Je parle des moyens terrestres.
Industriels dans la rapidité de production d'armes qui coûtent cher et qui sont usinées lentement, même avec un bon complexe militaro-industriel. Et par ailleurs, bah, voilà, évidemment, on ne peut pas avoir plusieurs fers au feu. Maduro, ça n'a pas coûté trop cher, mais l'Ukraine, pour le moment, et la manière dont on veut étrangler l'Union européenne en disant « il faut que vous achetiez les armes aux États-Unis », s'il n'y a plus d'armes à vendre, ça va devenir compliqué. Ouais. Donc, on n'est pas certain qu'il y ait cette capacité à faire durer la guerre longtemps, alors que les Iraniens ont prouvé, eux qui sont sous sanctions américaines depuis quelques dizaines d'années, qu'ils étaient capables de produire du missile pas cher, beaucoup moins cher, oui, des drones, des missiles, des engins porteurs d'explosifs, et qui sont raisonnablement efficaces. Surtout, voilà, quand je suis en train de lâcher un de mes drones à 20 000 $ et qu'en face j'ai besoin d'un truc à 3 millions pour l'abattre,
d'où le fait qu'ils ont appelé des Ukrainiens pour les aider à les payer.
Voilà, et d'ailleurs, les Américains ont demandé aux Ukrainiens, tout à fait, de les aider à produire de l'arme pas chère, parce que les Ukrainiens aussi ont appris à fabriquer sur pas cher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même ce qu'a déclaré le camarade Trump ce matin. La fin du conflit reposera sur une décision mutuelle prise avec Israël. Donc, ça, c'est quand même c'est un truc de malade mental, quand même. Donc, les États-Unis attaquent et ils disent tant qu'Israël ne sera pas d'accord pour arrêter, ou dire tant qu'Israël ne sera pas d'accord pour éviter d'éradiquer son ennemi mortel qui a juré la mort d'Israël, et on peut se poser la question avec un mec comme Netanyahou aux commandes de la volonté d'Israël d'arrêter, parce que là, pour le moment, Israël a décidé de bombarder l'Iran, et Israël a décidé aussi de flinguer la vie de quelques centaines de milliers d'habitants du Liban en expliquant « Écoutez, on va bombarder les quartiers de la ville parce qu'il y a sans doute un ou deux Hezbollah qui se cachent là. Vous connaissez notre méthode, elle est humanitaire. On vous explique la veille qu'on va tous vous flinguer. Et si jamais vous restez sur place, c'est bien de votre faute. Et donc, dégagez, bande de gueux, et laissez-nous, sur la foi de renseignement évidemment impeccable, faire en sorte de tuer les trois membres du Hezbollah qui seraient planqués dans l'un des 14 immeubles qu'on est en train de raser.
Avec un tout petit détail, c'est quand même que le Liban, jusqu'à preuve du contraire, reste un État souverain, même si on s'essuie dessus.
Mais ça, là, visiblement, Israël n'en a rien à faire. Parce que l'idée d'Israël, c'est tue tous les Iraniens qui seraient capables de soutenir le régime, je tue le Hezbollah, puisque le Hezbollah m'envoie des missiles, et ceux qui ne sont pas contents, ça prouve juste... Israël, c'est un peu Jean-Luc Mélenchon, quoi. Parce que il y a les fascistes et les antifascistes. Et terrible. Si vous n'êtes pas d'accord, ça signifie juste que vous êtes un salaud. Et si vous n'êtes pas d'accord pour mourir parce qu'il y a quelqu'un du Hezbollah qui peut crever, ça veut dire que vous êtes aussi pourri que le Hezbollah lui-même. Avec ce genre de système...
Et encore une fois, Dieu sait vraiment que je n'aime pas les ayatollahs et les islamistes en tout genre, mais il y a quand même un parallèle bizarre en termes de mépris intégral du droit international entre l'Iran et Israël. Les Iraniens tapant indistinctement le Bahreïn, le Koweït, les voisins, tout ce qui bouge, quoi.
Mais non, pas tout ce qui bouge, parce qu'il y a une base américaine, et les autres disent, le Hezbollah a une base au Liban, frappons le Liban.
Taper, même si c'est un quartier, d'ailleurs. Mais ils le font tous, sans avoir le moindre souci des règles de vie, du droit élémentaire.
Il n'y a pas de droit élémentaire, en fait.
En théorie, il y a un droit élémentaire.
Mais ça fait bien longtemps qu'il n'est pas appliqué, que le droit international a été créé pour les Américains, pour surtout pas qu'ils se retrouvent eux-mêmes au procès, parce que dans la liste des types qui doivent passer devant les assises ou devant le jury, il y a quand même au moins trois bouches, père-fils et petit-fils probablement, plus de droits de trop de président américain, ça ralentit un peu.
Ni Israël ni les États-Unis ne reconnaissent la Cour pénale internationale.
Mais bien sûr,
donc
ils n'ont pas... Mais pour que je juste
les conclusions,
je relançais sur le Liban, et évidemment que je trouve ça affreux, choquant, ce que vous voulez. Néanmoins, si on se met à la place d'un Israélien, j'ai pas l'impression que les Israéliens ne soutiennent pas Netanyahou sur ce coup-là du Liban. D'éliminer leur ennemi mortel qui menace leur existence. Ce qui n'est pas le cas des Américains, on n'est pas sur le même plan.
Mais sauf que les Américains...
Après, on n'est pas obligé de les soutenir, nous, parce que nous ne sommes pas Israéliens. Les Américains ne sont pas obligés de dire « Amen » à tout ce que fait Netanyahou parce qu'ils sont Américains et pas Israéliens. Je suis d'accord, mais l'objectif de guerre de Trump me paraît plus suspect que celui d'Israël,
de Netanyahou. Et illisible, et là aussi, Xavier Van Lierde le déclarait à cette antenne la semaine dernière, et j'ai trouvé que c'était intelligent, comme tout ce que dit Xavier Van Lierde, comme tout ce qu'il dit sur cette antenne, comme tout ce qu'il dit sur cette antenne depuis Pierre-Alexandre Bouclet en est président. c'est les objectifs de Trump sont flous dans la mesure où le résultat étant flou lui-même, ça permettra à Trump, comme vous le soulignez tout à l'heure, Arthur de Vatrigan, de se tirer en expliquant qu'il a rempli ses objectifs, puisque tant qu'il ne les définit pas, évidemment, personne ne peut l'accuser d'avoir tiré à côté de la cible.
Le seul truc dont on est certain, c'est qu'étonnamment, et je ne sais pas par quelle bizarrerie, quand il attaque un pays, ça emmerde toujours la Chine. Le seul truc, je me dis, il y a quand même une petite réflexion derrière.
Oui, enfin, c'est beaucoup de bazar pour
peiner. Je suis pas sûr que soit peu, parce que regardez le Venezuela. Ouais. Maintenant, l'Iran, ça commence à taper sévère pour les Chinois.
C'est vraiment la question du pétrole.
Alors peut-être que c'est du hasard pur, mais à chaque fois, c'est un allié chinois.
C'est vrai, mais la Chine peut s'approvisionner en Russie sans trop de problèmes. La Russie, il y a quand même beaucoup de pétrole.
Oui, mais il négocie avec la Chine, avec la Russie actuellement, Trump.
Oui, c'est vrai. Mais bon, je pense que la Russie ne sera jamais assez bête pour lâcher la Chine par rapport aux États-Unis.
Surtout tant que les États-Unis continuent à expliquer que l'Ukraine n'est pas une affaire réglée.
Oui. On a un auditeur donc il nous dit « Merci pour cette émission très intéressante, mais je suis persuadé que cette opération militaire aura une fin par le départ des ayatollahs en France ». Qui les accueillera?
Ah non.
Écoutez, on a déjà donné.
Ils vont pas revenir, c'est bon. Vous êtes parti, monsieur, c'est fini.
Vous revenez pas. On nous dit quel serait et quel sera l'avenir et le devenir d'Israël sans guerre. Ils sont des questions. Alors, après, je ne sais pas si vous avez des réponses à ça.
Je voudrais quand même revenir effectivement sur le fait qu'on espère que le régime islamique va tomber en Iran. Mais il y a plusieurs forces armées islamiques en Iran. C'est-à-dire, il y a l'armée, il y a les gardiens de la révolution, il y a la police qui est surarmée. Ouais. Donc Amélie Chély en parlait il y a 2 ou 3 semaines à cette antenne. Voilà, on ne va pas pouvoir changer un régime au sol avec autant de personnes qui sont très fortement intéressées. Ils sont 200 000 les gardiens de la révolution à ce que le régime ne change pas. Il ne va pas y avoir un mec du Mossad derrière chaque gardien de la révolution pour diriger un missile sur chaque immeuble chaque personne, où il habiterait.
Et il y a un problème auquel je réfléchissais tout seul dans ma baignoire, mais c'est quand même que les Israéliens et les États-Unis ont besoin de gagner. Ils ont besoin d'une victoire, surtout les Israéliens d'ailleurs. Les Iraniens n'ont pas besoin d'une victoire, ils ont besoin de ne pas perdre. Ils ont besoin de ne pas tous disparaître et de garder la main sur le régime, même s'il est super affaibli. En fait, tant qu'ils gardent une base et que les Israéliens et les Américains partent sans les avoir éradiqués, en fait, les Américains et les Israéliens ont perdu. En fait, tandis que les Iraniens, même s'ils n'ont pas gagné, même s'ils en ont pris plein la tête, ils n'ont quand même pas perdu.
Le gouvernement iranien. C'est vrai,
il faut penser à tous
ce peuple
iraniens.
Vit dans la terreur, ouais. Ce peuple vit sous un régime totalitaire, ce peuple vit sous un régime musulman, avec ce que ça signifie comme loi aberrante. Et donc, on est évidemment de tout cœur avec les Iraniens, quels que soient, à côté de ça, les doutes qu'on peut entretenir sur la pertinence des actions de Donald Trump et sur la manière de conduire la guerre d'Israël, dont on apprend une fois de plus que non seulement le droit international ne compte pas à ses yeux, mais quel État puissant a-t-il véritablement jamais tenu compte du droit international, mais que les lois de la guerre n'ont pas l'air non plus, ni avec le Liban, ni avec Gaza, ni avec quoi que ce soit, de les retenir, et que donc l'armée la plus morale du monde est en train de conduire une fois de plus l'une des guerres les plus curieuses.
Arthur de Vatrigan.
Et autre chose aussi, c'est qu'il y a une méconnaissance de l'Iran de la part beaucoup d'Occidentaux. Alors parce qu'on a le point de vue de la diaspora, et le point de vue des diasporas est généralement trompeur, et en plus là si on se dit que c'est les diasporas qui ont fui avec le chat, forcément ils sont pour le retour du fils, et ça ne veut pas dire que sur place ils le sont. Et notamment aussi sur l'islam, j'ai entendu beaucoup d'experts, entre guillemets, expliquer que les Iraniens, à cause des mollahs, détestaient plus que l'islamisme, l'islam total. Et si vous regardez les films iraniens, pour le coup qui sont hyper intéressants, parce que quand vous avez plein de contraintes, c'est là où vous êtes le plus doué, c'est comme pour la littérature, vivez sous une dictature et vous créez des choses hyper intéressantes, c'est pas du tout ce que montre, en création aussi, Dostoïevski, c'est vachement plus intéressant que Gogol, quoi. Oui. Mais les films de Panahi sont... c'est pas du tout, par exemple, ce que montrent les films de Panahi. Et j'ai l'impression qu'on projette une image de l'Iran qui n'existe pas. Même libéré des mollahs, ce sera pas l'Iran qu'on imagine.
Bien sûr.
Et c'est très intéressant.
Mais alors ça, je pense aussi que... On a tous des visions très très fantasmées d'un certain nombre de pays. C'est vrai aussi, honnêtement, de la Russie.
Et de la France.
Oui, mais quiconque a vraiment voyagé un peu en Russie et en Europe de l'Est se dit, quand on parle à des Français qu'ils soient pour ou contre, que vraiment, ils n'y connaissent rigoureusement rien. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est impressionnant même. C'est plus qu'intéressant. Il nous reste une minute, malheureusement.
Eh ben, il va y avoir cinq sujets, comme d'habitude.
Exactement. Merci, Richard de Cesse. Parce que Stéphane Courtois était passionnant, j'ai trouvé. Donc, on l'a laissé toujours déborder. Non, on reviendra la semaine prochaine. Déjà, sur l'intérêt de la France dans ce conflit, parce qu'au fond du fond, ça doit quand même être la seule vraie boussole pour nous.
Oui, bien sûr.
Richard de Cesse. Arthur de Vatrigan, il nous reste 30 secondes pour présenter le nouveau numéro de L'Incorrect, avec en couverture Marguerite Stern, Marion Maréchal et Alexandre Devecchio.
Donc des trentenaires qu'on a emmenés à la Basilique Saint-Denis pour une déambulation mémorielle et qui nous parlent de leur passé à eux, de leur avenir. Et il y a plein de choses intéressantes parce que j'ai de quoi faire 4-1. On a une contre-enquête sur Renaud Camus.
Oui.
On a un grand papier sur le dernier disque de Michel Houellebecq. Et surtout, on a un grand papier également sur le prochain film de Xavier Giannoli sur l'occupation, ce qui est assez rare. Une grande fraise sur l'occupation d'un grand mania de gauche, la presse de gauche.
Eh bien, ce sera passionnant.
Collaboration même, précisément.
Un dernier message avant de se quitter. Bonsoir, merci pour cette émission très intéressante, mais les nazis en 1945 ont travaillé avec les USA ensuite, donc peut-être que les gardiens de la Révolution finiront par en faire autant. Écoutez, tout est possible, effectivement.
Un ingénieur n'a pas d'idée.
Absolument. Sur ces propos cyniques et glaçants, merci à tous, merci chers auditeurs, merci chers amis d'avoir été présents avec nous pour cette édition de Restons Courtois. Vous retrouvez demain Richard de Cesse aux commandes, vous retrouvez Arthur de Vatrigan mercredi, Marc Hainaut et ensuite Marc Baudrier vendredi, et nous-mêmes nous nous voyons lundi prochain. À bientôt.
Ça suffit maintenant.